L'invité de France Inter jusqu'à 9h est le secrétaire général de la CFDT, Laurent Berger, bonjour.
Bonjour.
Il y a aujourd'hui un mouvement de grève nationale dans les établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes, ce qu'on appelle les EHPAD. Personnel insuffisant, soins aux personnes âgées bâclées, faute de temps. Certains personnels parlent aujourd'hui de maltraitance institutionnalisée à l'égard des personnes âgées. Le terme est fort, je ne dis pas qu'il s'applique à tous les établissements, mais le reprendriez-vous à votre compte ?
Oui, le terme est juste. Moi, tous les salariés, les travailleurs des EHPAD que je rencontre, ils me disent à la fois qu'ils sont fiers de travailler dans un métier utile auprès des anciens, auprès des personnes âgées, utile à la société aussi, mais en même temps qu'ils se sentent une forme de culpabilité. Culpabilité de ne pas pouvoir faire bien leur travail, de faire subir une forme de violence institutionnelle.
Ça veut dire que l'institution elle-même produit de la maltraitance,
ça veut dire
si
que
on définit
ça,
bien les
ça
choses.
Ça veut dire qu'il y a une immense fatigue et qu'il n'y a pas les moyens de faire correctement son travail. Les témoignages les uns après les autres, et nous le disions depuis de nombreuses années. Depuis de nombreuses années, nous disions que dans les EHPAD, mais dans l'hôpital public aussi en général, il y a une forme de burn-out, en fait une forme de fatigue de l'ensemble des personnels. Et donc oui, il y a un mal-être très très important, c'est une situation explosive qui est intenable telle que ça fonctionne aujourd'hui et qui est insupportable à l'égard des personnes âgées, mais aussi des travailleurs de ces EHPAD.
La France a-t-elle un problème avec ces personnes âgées, Laurent Berger ? Est-ce qu'il y a, je m'explique, une incapacité à prendre politiquement en charge cette question, pour des raisons que j'ignore, mais comme si les personnes âgées étaient ce qu'on ne voulait surtout ni voir ni entendre.
Peut-être, mais surtout, je pense qu'on n'a pas mesuré l'ampleur de la situation. C'est un vieillissement de la population, tant mieux. Plutôt en bonne santé, mais pas totalement jusqu'au bout, et avec des situations de dépendance, et l'incapacité d'investir socialement dans la prise en charge des personnes âgées. Il y a les EHPAD, il y a le maintien à domicile, qui est dans une situation tout aussi catastrophique pour une part, avec 98% des travailleurs de ces maintiens à domicile qui sont des travailleurs en temps partiel subis, donc avec une situation qui est aussi la rapidité en permanence et une forme de maltraitance, là aussi, institutionnelle. Et donc, on n'a pas investi. Parce que ça demande quoi ? Ça demande de se dire que si on veut du maintien à domicile, qui est une partie de la solution, mais aussi des EHPAD qui fonctionnent bien, il faut un professionnel par personne.
C'est possible, ça ?
Oui, c'est possible.
Un pour un.
C'est possible parce que si on décide d'investir. C'est possible, évidemment que c'est possible. Aujourd'hui, le ratio il est de 0,6. Et oui, c'est possible, c'est une revendication de toutes les organisations qui vont
la revendication
vont
est une chose. Est-elle mais, possible, pensable, mais, applicable ?
Vous savez, si on se dit que ce n'est pas possible, si on se dit que c'est pas possible d'investir plus dans la prise en charge des personnes âgées, alors on s'insurge pas de façon temporaire, de temps en temps, sur la situation qui est faite. On sort pas des témoignages une fois tous les années et demie en se disant, parce que c'est pas tous les ans et demi. Tous les années et demie que ce qu'on subit sur les toilettes ou les douches qui sont une fois par semaine quand ça va bien ou une fois par mois. Ça fait longtemps qu'on le dit. Ça fait longtemps que les professionnels du secteur, toute organisation syndicale confondue, le disent en disant que c'est pas tenable. Donc, soit on décide que c'est pas possible d'avoir une politique en direction des personnes âgées, alors qu'il y en a une. Je vous rappelle que la ministre Delaunay avait fait un premier plan. Et puis, il devait être suivi d'un deuxième plan qui n'a jamais vu le jour. Pourquoi ? Parce que les logiques budgétaires. Donc, à un moment donné, il faut qu'on se dise si ce qui compte, ce sont les logiques budgétaires ou c'est l'humanité qu'on doit aux personnes âgées.
Combien d'argent, d'après vous, Laurent Berger, est-il nécessaire pour ce rattrapage ?
On ne l'a pas chiffré. Je vous le dis franchement, on ne l'a pas chiffré. Ce n'est pas le sujet parce qu'il y a une question d'argent. Ça, c'est sûr. Et c'est, il faudrait faire un recensement établissement par établissement sur la situation parce qu'elles sont... Il faut aussi le dire, et vous l'avez très bien dit, c'est des situations qui sont aussi diverses selon les établissements. Mais il faut aussi une question sur l'organisation du travail et la professionnalisation et la reconnaissance des agents qui font ce travail-là. Vous savez, quand vous êtes infirmière dans un EHPAD et que vous avez, comme on me l'a dit hier encore, 165 personnes âgées la nuit dont il faut vous occuper, vous croyez que vous le vivez comment ? Vous croyez que vous le vivez comment ? À la fois à l'égard des personnes âgées, mais à la façon dont vous vous sentez reconnu. Dans le travail qui est le vôtre. Il y a des personnes, des soignants ou des personnes des EHPAD, des personnels des EHPAD, qui nous disent que quand ils rentrent chez elles, elles pleurent dans la voiture de ne pas avoir tenu la promesse qu'elles avaient faite à des personnes âgées de repasser les voir, etc. C'est les réalités. Des exemples comme ça, on en a des tonnes et des tonnes. Il suffit d'aller dans un EHPAD pour voir ça. Et donc, moi, je ne suis pas misérabiliste, tout le monde le sait. Je ne suis pas en train de dire, voilà, ça me réjouit d'expliquer que tout va mal. Non, je ne dis pas que tout va mal, mais on n'a pas une politique digne de ce nom aujourd'hui dans notre pays en direction des personnes âgées. Et du coup, le personnel trinque, tout comme les personnes âgées.
Vous avez dit financement, plus de personnel. On n'a pas le chiffre de l'argent nécessaire pour que le système fonctionne bien. Est-ce qu'il faut inventer d'autres circuits de financement ? Là, je ne parle pas du montant, mais je parle d'autres manières de financer les soins aux personnes âgées.
Oui, il y a sans doute des choses à faire, par exemple sur, en termes fiscaux. Sur la fiscalité du patrimoine, il y a des pistes à explorer. Eh bien, par exemple, faire en sorte que on trouve les moyens que la fiscalité, pour les gros patrimoines, il y a une partie qui aille à la solidarité nationale beaucoup plus que ce qu'elle est aujourd'hui. Vous savez, tout cela, c'est vrai.
Un impôt de solidarité sur la fortune, on pourrait dire les choses comme
Pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Vous savez, toutes ces questions-là, elles posent la question de ce qu'on est prêt à payer pour la société qu'on veut. C'est aussi simple que ça. Et moi, je crois qu'une société qui traite pas correctement ses anciens et qui considère que les personnels qui ont fait ce choix d'être au service d'autres dans leur métier soient à ce point aussi maltraités n'est pas digne. Et donc, oui, il faut qu'on se dise où est l'investissement social nécessaire. Mmh. Il y en a forcément du côté des personnes âgées. Il y en a aussi du côté de la petite enfance, par exemple, ou des politiques sociales en direction de ceux qui sont les plus discriminés aujourd'hui.
Une deuxième journée de solidarité comme la première avait été créée après la canicule par le gouvernement Raffarin. Ça vous semble une idée baroque, grotesque, à exclure. Donc, pourquoi ?
Parce que c'est faire peser sur le travail et uniquement sur le travail et les travailleurs la solidarité nationale. Moi, je pense que le bon angle pour traiter ces questions-là, c'est de dire que voulons-nous comme politique en direction des personnes âgées ? Quel accueil, quel maintien à domicile, qui est une vraie voie à prioriser, parce que c'est à la fois un souhait et des personnes âgées, mais aussi une possibilité d'avoir des coûts allégés lorsque les personnes peuvent être maintenues à domicile. Mmh. Mais on se dit, on veut quoi ? Et à partir de là, combien ça nécessite d'argent et qui doit financer ? Et je crois que c'est cette approche qu'il faut avoir. Toute autre approche, c'est une approche culpabilisante à l'égard des travailleurs qui ne seraient pas solidaires, etc. Il y a un autre élément qui est extrêmement important, c'est les aidants familiaux. Vous savez qu'il y a tout un tas de personnes qui restent aujourd'hui, qui ne sont pas en activité professionnelle parce qu'elles sont aidantes à l'égard d'un proche, d'un conjoint, d'un parent, etc., voire d'un enfant.
Et ces personnes-là
elles souffrent énormément, elles ne sont pas considérées. Vous savez, le problème majeur de notre pays, et on le voit à travers les enquêtes sur l'état de l'opinion, c'est le sentiment de non-reconnaissance. Et quand on considère que tout un tas de personnes qui sont utiles à la société par leur investissement, parce qu'elles aident, parce qu'elles ont un métier qui est valorisant humainement, lorsqu'elles ne se sont pas reconnues, elles décrochent, quoi.
Est-ce qu'il faudrait une politique claire de lutte contre ce qu'on appelle l'âgisme, c'est-à-dire la discrimination basée sur l'âge ? Comme il y a le sexisme, il y a ce qu'on appelle l'âgisme, qui est un terme, moi, que j'ai découvert récemment dans la bouche de Pascal Chanvert, qui est au cœur aujourd'hui de la mobilisation de l'EHPAD. Est-ce que ça n'est pas un impensé du débat public ?
Si, il y a aussi un sociologue qui s'appelle Serge Guérin qui a beaucoup travaillé sur cette question-là, qui a à plusieurs reprises alerté en disant comme si on avait peur de nos vieux, pour dire les choses un peu brutalement. Et je pense que dans tous les témoignages qu'on recueille, il y a aussi ça. On considère que ce sont des êtres mineurs dans certains cas. Dans certains cas, donc, ils prennent la douche quand on peut leur donner. Et la rapidité, la violence institutionnelle qu'ils subissent parce que les salariés ne peuvent pas faire autrement. C'est ça qu'il faut comprendre. Il ne faut pas faire autrement. C'est un peu plus toléré parce que c'est quand même les personnes âgées. Et donc, oui, on a un problème et on aurait à s'inspirer de beaucoup de sociétés sur la façon dont on traite nos anciens.
Alors, Laurent Berger, il y a des mouvements sociaux dans les EHPAD, à l'hôpital public, à l'intérieur de l'hôpital, en psychiatrie, la semaine dernière dans les prisons, peut-être bientôt du côté des lycéens et des étudiants. Croyez-vous à la fameuse convergence des luttes ?
Non, je crois pas. Je pense que c'est pas forcément comme ça qu'on traite les problèmes. Je pense que là, on a un sujet sur les EHPAD. Moi, je souhaite qu'on aille au bout. On a un sujet sur l'hôpital public. Je souhaite qu'on traite ce sujet sur l'hôpital public. On a un sujet chez Carrefour avec, et c'est totalement différent, vous en conviendrez comme paramètre. Eh bien, je souhaite qu'on traite ces questions-là. Je crois qu'à tout mélanger, on donne le sentiment qu'on pourrait trouver une réponse globale à toutes les difficultés. Ça marche pas comme ça. Donc, ma question, pour le syndicaliste que je suis en tout cas, c'est pas la convergence des luttes, c'est pas la lutte, c'est les résultats pour les travailleurs. C'est que ça progresse pour eux. Et donc, la situation, par exemple, des salariés de Carrefour aujourd'hui, elle est assez différente des salariés des agents des EHPAD ou des salariés du privé des EHPAD. Eh bien, il faut les traiter un par un et demander à avoir des solutions qui soient formulées, ce qui n'est pas toujours le cas.
C'est un mythe, la convergence des luttes ?
Bah, ça, c'est un mythe pour certains. Moi, c'est ni ça me fait rêver, ni ça me fait
peur.
Pour
la CGT, c'est ça ?
Oui, mais vous savez, moi, j'ai pas cet après-midi. On va être ensemble sur les EHPAD.
Ça je pense pas que de c'est parler, ça. De réfléchir.
Oui,
hein.
Moi, non. Ça, vous savez que j'y suis assez favorable.
Oui, justement.
Je pense que ça n'a pas forcément beaucoup de sens et que ça n'a pas forcément beaucoup d'écho auprès des travailleurs. Vous savez ce qui nous intéresse ? Parce que les enquêtes qu'on nous montre les unes après les autres montrent qu'il y a une défiance généralisée à l'égard des institutions entre guillemets, syndicalisme compris. Pourquoi ? Parce que le syndicalisme, il est attendu sur les résultats. Et sur la capacité à porter une forme de cri lorsque les choses vont pas. C'est ce qu'on fait aujourd'hui sur les EHPAD. C'est ce que je fais en ce qui me concerne depuis longtemps sur l'hôpital public. C'est ce qu'on fait aussi sur d'autres acteurs, d'autres travailleurs, par exemple des fonctions publiques. Mais aussi du privé. Eh bien, je crois qu'il faut répondre situation par situation en apportant des résultats, ce qui n'empêche pas d'avoir une vision un peu globale du monde du travail qui aujourd'hui ne va pas si bien que ça.
Dominique Seux en parlait tout à l'heure et c'est la une des échos, cette enquête du CEVIPOF. On se partage la queue du classement, hein, syndicats, médias, hommes politiques. C'est une crise pour les deux premiers syndicats médias, des corps intermédiaires de la démocratie.
Oui, je crois, ouais. Ouais, je crois que c'est une défiance. Ce sentiment que les corps intermédiaires, on pourrait s'en passer et qu'ils ne sont pas forcément très utiles.
Et vous avez dit vous-même qu'ils étaient mortels. Hein.
Oui, mais c'est vrai, ils sont mortels. Ils sont mortels s'ils ne se rénovent pas, s'ils ne se renouvellent pas. Mais même quand ils se renouvellent, on voit bien qu'ils continuent de susciter de la suspicion, de la défiance. Mmh. Et ça, c'est dangereux pour la démocratie. Mais en même temps, on a aussi des discours politiques qui parfois alimentent ça. Moi, quand on est renvoyé dans le vieux monde en permanence, ou quand on nous explique que les médias sont toujours trop orientés, on crée soi-même son média.
Ouais, ou quand on crée une école, la France Insoumise a créé une école.
Eh bien, on donne le sentiment
avec des tutoriels comment monter une grève. Je me suis dit, tiens, la France Insoumise est en train de devenir de fait un syndicat.
Je pense qu'on n'a pas besoin de la France Insoumise pour organiser une grève. Lorsqu'il y a besoin d'organiser une grève, on sait le faire très bien.
Est-ce que de fait, la France Insoumise,
vous touchez là un problème fondamental. C'est de considérer que on n'aurait pas chacun un rôle dans une démocratie. Les médias, ils ont le rôle d'informer. Ils ont le rôle d'informer sur tout ce qui leur semble, évidemment en respectant leur éthique, mais tout ce qui leur semble utile en termes d'information. Nous, on a le rôle de faire valoir la voix des travailleurs et de contribuer à l'intérêt général en faisant en sorte qu'on n'oublie jamais le travail, le monde du travail dans cette construction d'intérêt général. Et donc, à chaque fois qu'on essaye de dire « Non, mais les syndicats, ils devraient faire ça ou ça », ou on essaye de les diriger, on se plante.
On dit qu'ils sont faibles, les syndicats, donc peut-être que la nature ayant horreur du vide, la France insoumise vient marcher sur vos plates-bandes.
Mais parce que vous trouvez que la France Insoumise est plus forte que la CFDT,
qui est devenue la première organisation syndicale.
La CFDT est la première organisation syndicale et c'est l'organisation qui, aujourd'hui, dans le privé, obtient le plus de suffrages.
Mmh. Des aveugles.
Ouais, non, mais vous savez, à procéder comme ça, là, vous jouez contre votre camp, j'ai envie de dire. Parce que moi, j'ai des enfants qui commencent à être adultes, qui écoutent pas forcément toutes les matinales le matin et qui vont sur d'autres médias qui sont aujourd'hui plus accessibles pour cette génération-là. Est-ce que ça veut dire qu'il faut pas muter ce qu'est en train de faire, par exemple, l'audiovisuel public, de muter, y compris vers la digitalisation? Bah oui, il faut le faire. Et les organisations syndicales ont aussi cette évolution à faire. Et on est en train de la faire. Mais à vouloir tuer son chien, on dit qu'il a la rage. Et donc, quand on veut tuer la démocratie sociale, on dit qu'il n'y a pas de corps intermédiaire. Vous savez, c'est ce qu'on fait aussi sur les associations. Et moi, je le dis, une démocratie qui se résumerait à un chef et le peuple, ça ne devient plus une démocratie.
Une dernière question, parce que ça n'est pas par esprit de polémique que je vous les pose. La charte d'Amiens en France est un texte fondateur pour le syndicalisme, séparation claire entre les partis et les syndicats. N'est-ce pas ce point-là qui est de fait aujourd'hui en train d'être fragilisé ?
Oui, c'est ce point-là qui est en train d'être fragilisé par un certain nombre de discours, notamment de la France Insoumise, qui donnerait à croire qu'il faudrait que lorsque tel ou tel leader de la France Insoumise siffle, on soit là pour répondre à son injonction. La CFDT, elle est libre et indépendante. Ça n'a jamais marché comme ça. Et le jour où ça remarchera comme ça, Si jamais ça l'a été, eh bien, on se plantera. On se plantera parce qu'on ne répondra pas à ce qu'attendent de nous les travailleurs, c'est-à-dire, quel que soit ce qu'ils pensent au niveau politique, ils attendent de nous des résultats, la qu'on défense. Améliore leur situation et de la justice sociale.
Laurent Berger, dans quelques instants, on vous retrouve avec Léa Salamé et les auditeurs d'Inter, juste après la revue de presse.